te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi.
Je te veux dans mon cœur, je te veux.
Remplis-moi de l'esprit, je t'ai déjà résisté si souvent. J'avais tellement peur, mais maintenant, je peux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Viens m'emporter dans ce torrent d'amour. Je veux sentir tes bras qui m'entourent. Je veux plonger mon cœur dans le tien. Tu es mon Dieu et je t'appartiens. Je t'appartiens.
Voici quelques lectures. La première dans Ézéchiel 47, d'abord les versets 1 à 9. L'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droite de cette porte. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, « Fils d'homme, as-tu vu ?» Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres, en très grand nombre. L'homme me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre, et il y aura beaucoup de poissons. Car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur le passage du torrent. Et encore le verset 12, un peu plus loin. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert, et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits, grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède.
Deuxième lecture dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 4. Jean, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Jésus en Samarie. Jésus arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, midi donc. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une samaritaine ?» Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'aurais-tu donc cette eau vive ?» Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. »
Encore dans Apocalypse, le chapitre 22, les cinq premiers versets. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement.
Nous prions. Donne-moi cette eau, Seigneur. Nous avons soif de toi, d'entendre ta voix, d'être instruits de toi, Seigneur. Accorde-nous ton esprit pour nous éclairer. Réveille dans nos cœurs l'aspiration d'être plus près de toi, plus enraciné en toi, plus rempli de ta présence. Parle-nous, au nom de Jésus nous prions. Amen. Si vous avez en souvenir la dernière édition de l'Électron, ça date d'un petit moment. Il y avait un petit rapport de la sortie des enfants qui sont partis au Vitam Park. Peut-être certains aimeraient y être en ce moment. Et puis, le sujet était l'eau proposée par Nicolas Berrou aux enfants. Et puis, il nous a dit, je suis sûr qu'en lisant la Bible, vous verrez des tas d'endroits où la Bible nous parle d'eau. Vous avez une idée ? Point d'interrogation. Voilà, alors si vous avez fait vos devoirs, vous savez déjà tout de quoi je vais parler. Il y a de ces thèmes qui traversent l'ensemble de la Bible, du début jusqu'à la fin. Et nous avons commencé à voir certains de ces thèmes. On avait évoqué la question d'alliance, mariage, dans le sens d'alliance, mais on doit y retourner. Les généalogies qu'on trouve du début Et puis au milieu, dans le livre de Ruth qu'on avait regardé ensemble, ensuite on arrive au Nouveau Testament également, un thème qui, comme un fil conducteur, traverse la Bible. Il en est de même pour l'eau. On trouve de l'eau dès le début, et comme vous avez entendu, jusqu'au tout dernier chapitre de la Bible. Il y a de l'eau en abondance, de l'eau pour les assoiffés, de l'eau vive. Et ce matin, je nous propose de boire ensemble à cette source d'eau. De l'eau en abondance. Cette eau coule à travers les pages de nos Bibles, symbole de la bénédiction de Dieu. On trouve ce fleuve dans le deuxième chapitre, deuxième récit de la création de Dieu. Ce jardin, paradis de Dieu, où il y a un fleuve qui traverse ce lieu merveilleux pour arroser, pour apporter la vie. Et ce fleuve, nous le retrouvons à la fin de l'histoire, à nouveau là où le mal sera absent. On aura traversé l'histoire de l'humanité, séparée de Dieu par la chute, et à nouveau de l'autre et une abondance de vie symbolisée par ce fleuve qui traverse la ville. Mais est-ce que ça veut dire que en attendant maintenant, il n'y en a pas? Nous en sommes privés. On peut seulement aspirer après ce que nous est miroité mais qui nous manque maintenant. Non, comme nous a rappelé Catherine, j'ai pas triché en citant d'autres psaumes, mais les psalmistes évoquent souvent cette image de l'eau. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mais d'abord, revenons à ce que nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel. Et il a ce guide, comme ça se fait quand on fait du tourisme, il a ce guide qui lui montre ce qui se passe là au temple, et qui le fait remarquer, donc ce petit filet d'eau qui part sous la porte des temples, rien du tout, quelques gouttes, on pourrait dire, versées d'un flacon, par exemple. Et puis il le fait avancer 500 mètres, et puis ça commence à être un ruisseau. Comme ça, pas plus. Facile à marcher dedans, à patauger si on veut, même pour les tout-petits. Arrivé à un kilomètre plus loin du temple, on constate que ça arrive voilà, au genou. Mais on peut encore facilement marcher dedans. Mais en avançant encore 500 mètres, on constate, oui, c'est déjà un mètre et ça coule vraiment bien. Un fleuve qui coule bien. Alors, on peut encore marcher avec... Avec nos jeunes, nous avons été à Aquapark et puis il y a des lieux prévus pour les pas trop grands où on est dans le courant et on avance agréablement. Mais arriver à 2 kilomètres, c'est carrément un torrent. Je ne sais pas si vous avez essayé de traverser vraiment un torrent. J'avais fait du trekking tout au nord du Pakistan, et puis il y avait un torrent à traverser. Et puis, à un moment donné, il y avait un pont un peu suspect, où il y avait une personne, il fallait s'asseoir dans une sorte de siège, et une personne tirait jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre côté. Et puis, il m'a proposé un tarif d'étranger. Donc, moi, j'ai pas voulu, têtu comme j'allais dire que je l'étais, mais les enfants diraient comme je suis. Je voulais pas entrer en matière. Donc, j'ai cherché un endroit où traverser ce torrent. Je suis entré jusqu'à la cheville. Ça allait très bien. Le genou, la taille. Et puis, j'osais plus avancer. Vraiment dans un torrent qui peut tout emporter. Donc, sagement, comme Ézéchiel, je suis retourné sur le bord. Mais quand son guide remarque qu'Ézéchiel a vu sur le bord du torrent tous ces arbres, il lui explique que partout où passe l'eau qui est sortie du temple, la vie abondante va apparaître, même dans la mer morte. Il y aura une transformation miraculeuse. Tout le monde entend bien avec les fenêtres, ça va? Sauf quand les avions passent. Une transformation miraculeuse. Là où il y a eu exil, parce qu'Ézéchiel est dans ce temps-là, les gens étaient pris loin de leur pays. Là où la mort a régné, le pays sera purifié par cette eau qui coule. Il y aura à nouveau bénédiction abondante. Dieu est retourné dans son temple. Non pour simplement être là passivement à recevoir les sacrifices qui lui étaient donnés, mais pour planter, arroser, donner la vie. Partout où l'eau est passée, il y avait la vie, nous dit le verset 9. Verset 12, sur le torrent, sur les bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira jamais. Leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois. Parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Dieu de retour dans son temple. Donc ce grand fleuve que voit Ézéchiel, c'est un peu énigmatique, cette vision. Mais ça rappelle le fleuve qui sortait du jardin d'Éden, la présence même de Dieu. Et en plus, ça annonce les temps de rafraîchissement à venir, quand le Messie promis sera enfin là pour le relèvement de son peuple assoiffé. De l'eau en abondance. De l'eau pour les assoiffés. Jésus vient, on peut le tracer sa venue à travers l'évangile de Jean, dans lequel on a juste jeté un coup d'œil. Il vient. Il dit, quand on lui fait remarquer cette belle construction, détruis ce temple et en 3 jours, je le releverai. OK? Qu'est-ce que tu racontes là? Ça nous a pris 46 ans pour le construire. Mais ils n'ont pas compris que Jésus parlait du temple de son corps. Jésus, maintenant, personnifie le temple. Celui qui est la source de toutes choses s'amène en Samarie et, fatigué du voyage, il s'assied au bord d'un puits. « J'ai soif », lui dit le Créateur de toutes choses. « Donne-moi à boire. » La femme jette sa cruche dans le puits, essaye tant bien de mal de monter quelque chose. Et Jésus lui dit, mais attendez, arrêtez tes efforts. Parce que moi, j'ai une eau qui désaltère vraiment. Et celui, celle qui boit de cette eau, n'aura plus jamais soif. Et puis, quelques chapitres plus loin, on arrive à la fête des cabanes, fête des tabernacles, où il y avait l'habitude d'aller puiser dans le réservoir qui se trouvait à Siloé un flacon d'eau. Et puis, il y avait un défilé avec le souverain sacrificateur en tête qui avait ce flacon d'eau. Arrivé au temple, symboliquement, il versait ce petit filet d'eau, de rien du tout. C'était le point culminant de la fête. Ça évoquait pour les Juifs la provision de l'eau dans le désert. Mais ça annonçait aussi le temps de la fin, quand Dieu avait promis au prophète de répandre son esprit. Et Jésus se lève ce jour-là, le plus grand jour de la fête, Jean chapitre 7, et il s'écrie d'une voix forte que celui qui a soif vienne à moi. Verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'a promis l'Écriture. Depuis sa sortie du jardin bien arrosé, l'homme a toujours eu soif, comme une biche. Il a soupiré après ses courants d'eau. Il a aspiré après un temps de rafraîchissement, où sa soif sera étanchée. Comme cette femme qui essaye d'étancher sa soif avec ses cinq maris et encore maintenant un sixième, comme elle pouvait. Et Jésus vient dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il offre à cette femme insatisfaite, assoiffée de toute autre chose, la paix, le repos de l'âme. Cette eau vive qui lui permettra de plus jamais avoir soif. Et au passage, cette eau apportera la purification aussi symbolisée dans les pages de l'Ancien Testament. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, disait Jésus à la femme. Tout d'un coup, elle comprend, elle pose sa cruche et sa vie ne sera plus jamais la même, car elle boit à la source d'eau vive à grand gorgée, de l'eau pour des assoiffés. De l'eau vive. Est-ce que nous avons soif? La soif dans la Bible, c'est symbole d'un besoin spirituel qu'on ressent ardemment. Est-ce que nous avons soif? Est-ce que nous avons saisi quelque chose de cette abondance que Dieu désire nous offrir? Ézéchiel l'a vu d'avance. Et voilà que Jésus arrive et nous n'avons plus à aller vers un bâtiment quelconque. On vient vers lui et il nous l'offre. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En nous, une source d'eau intarissable. C'est vrai que ce cours d'eau coule le long des sillons du peuple qui cherche à suivre et à obéir Jésus. Et comme un puits qui peut être bouché, on peut des fois mettre des choses, des priorités qui sont à dégager, déplacer, pour que la source jaillisse à nouveau dans nos vies. Il y a des relations des fois qui font barrage, qui sont à débloquer, pour que l'eau coule à nouveau. Des attitudes également qui peuvent faire barrage à cette eau qui désire couler abondamment. Ézéchiel va signaler à ce peuple de retour de l'exil qu'en fait, il n'avait plus d'eau à cause de leur pratique. C'est pour ça qu'ils étaient partis. Mais maintenant, Dieu désire à nouveau déverser sa bénédiction. Le fleuve d'eau de Dieu est rempli à nouveau d'eau. Lors de notre visite au bain de Saillant avec le groupe Cathé, il y a cette rivière qui coule assez rapidement. Et marcher contre courant est quelque chose de difficile. Nager contre courant, c'est encore plus difficile. Mais quel courant suivons-nous? Il y a le courant de l'esprit qui désire produire ce fruit abondant dans nos vies. Et il y a un autre courant, le courant de ce monde où nous vivons, qui nous amène loin des choses de Dieu. Mais on est surpris de constater que si nous allons dans le courant de l'eau, en fait, nos amis, si ce sont de vrais amis, nous respectent si nous sommes conséquents avec nos convictions, nos copains, copines, nous respectent notre courage. Si nous n'allons pas dans le courant qui les emporte et que nous montrons qu'il y a une autre force dans nos vies qui nous a permis d'aller contre-courant dans le courant de l'esprit, le courant de l'esprit. Dans la Bible, il y a de l'eau de A à Z. de l'eau pour les assoiffés, une eau vive qui satisfait vraiment. Cette eau nous est proposée à la fin de l'histoire, dans l'Apocalypse, où nous connaîtrons une relation renouvelée, parfaite, avec notre Seigneur et les uns avec les autres. Dans cette provision parfaite du fleuve qui est là, dans la route principale, l'allée principale de la ville, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Il y aura à nouveau l'arbre de la vie avec ses fruits abondants pour les nations. Mais déjà maintenant, Jésus vient et offre son esprit comme une source toujours renouvelée dans la vie de chacun qui le suit. Pour traverser les lieux arides de notre marche sur cette terre, pour les transformer en lieux d'oasis. Dieu désire le faire pour nous individuellement, il désire de le faire pour nous en tant que communauté, parce que il dit, je vais le lire pour ne pas le dire à travers, que nous sommes maintenant édifiés en Jésus, la pierre angulaire, édifie comme un édifice bien coordonné pour s'élever, pour être un temple dans le Seigneur. Nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. L'eau coule de nous individuellement et l'eau sort du seuil du temple pour aller toujours plus abondamment vers les assoiffés qui nous entourent. Sa vie se répand, coule pour apporter une bénédiction toujours plus grande, immésurable partout. Et cette eau nous amène vers son pays, où la malédiction, nous l'avons lu, est ôtée, où Dieu lui-même habitera avec son peuple, où la vie abondante sera pour toujours. Assoiffez, demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous ne savons pas toujours donner de bonnes choses à nos enfants, mais notre Père Céleste, lui, combien lui s'est donné de bonnes choses. Et il donne, nous promet Luc, le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Que cette vie abondante puisse nous rafraîchir, nous abreuver, nous garder le cap dans le courant vers la cité céleste. Amen.